Ouais, alors c'est la fin. On tire notre chapeau et on se revoit la semaine prochaine. Salut, bye!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec. T'es aux études, à la recherche d'un emploi stimulant et diversifié? Tu veux fusionner études, travail et passion avec une équipe dynamique et sympathique? ADM Sport a besoin de ton talent, ton enthousiasme et ton ambition. Nos passionnés de véhicules récréatifs recherchent des conseillers aux ventes, département des vêtements. On t'offre un salaire compétitif, une prime annuelle, des rabais employés fort intéressants et même une formation à ton arrivée. Joins-toi à la grande famille ADM Sport. Envoie ton CV à ressources.humaines@commercialadmsport.com.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Henri en apprend plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval. Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
après-midi à tous et bienvenue à cette première émission de la conduite antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Nathanaël Paul à l'animation aujourd'hui et je serai en compagnie de mon acolyte de la session dernière, Guillaume Séguin. Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va très bien. Parler de sport, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé et là, ça recommence. Il n'y a plus le temps de la COVID vraiment avec le sport. Là, il y en a du sport en masse. On va en parler. On a eu un break pendant l'été et là, on a arrêté de parler du Canadien. Mais là, on va commencer par ça. Le Canadien de Montréal, il y en a eu des choses cet été. Il y a eu beaucoup d'acquisitions. Toi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura une acquisition du Canadien de Montréal cet été que justement tu aimerais parler, que tu trouves que ça serait bien, c'est bon pour le club ou pour la saison qui s'en vient?
Mais il y en a plusieurs. Je vais parler d'une acquisition en particulier, c'est celle de Christian Dvorak des Coyotes de l'Arizona. Je trouve que c'est un centre qui va vraiment pouvoir jouer sur le deuxième trio. On avait vraiment un centre de premier trio en Nick Suzuki, mais on avait vraiment besoin d'un centre de deuxième trio capable à la fois d'être bon offensivement, bon défensivement, complet. On n'avait pas ça en ce moment avec Philippe Danault puis Jesperi Kotkaniemi. Kotkaniemi, un petit manque de constance. Danault, un petit manque de talent offensif. Je pense que Dvorak a vraiment la combinaison pour être un excellent centre de deuxième trio.
Oui, pour le Canadien, moi, je trouve que c'est un excellent joueur. C'est vraiment le joueur qui va remplacer Jesperi Kotkaniemi. On le sait, on l'a perdu à cause d'une offre hostile de la part des Hurricanes qui lui donne, je crois, 6,1 millions pour un an. On a eu des choix en compensation. Et c'est justement avec un de ces choix-là qu'on a été chercher de Dvorak, si je ne me trompe pas.
Un choix de première ronde puis un choix de deuxième ronde en 2024.
Est-ce que tu trouves que c'est justement un joueur qui peut faire mieux que Jesperi Kotkaniemi pour l'instant? Mais pour le long terme, qu'est-ce que tu en penses de c'est un peu ce changement-là?
Bien, c'est une question qui est difficile à répondre. À court terme, il n'y a aucun doute que Dvorak va être meilleur que Kotkaniemi. À long terme, ça va vraiment dépendre du développement de Jesperi Kotkaniemi. C'est quand même un choix top 3 au repêchage. C'est un joueur qui est supposé avoir un talent élite. On verra bien comment il va se développer dans les prochaines années avec les Hurricanes, mais c'est sûr qu'à 6,1 millions, il n'y a pas grand club qui l'aurait gardé à ce salaire-là.
Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais fait vraiment la même affaire que Marc Bergevin a fait du côté de Jesperi Kotkaniemi pour aller chercher Christian Dvorak. Et là, justement, mon acquisition préférée, j'aimerais t'en parler. Je ne sais pas si tu vas... C'est pas vraiment un joueur en particulier, mais bien deux joueurs. Moi, je parlerais bien de David Savard et Chris Wideman, les deux défenseurs que Marc Bergevin a acquis durant la saison morte. Selon moi, c'est des acquisitions parfaite pour le Canadien parce qu'on le sait, Shea Weber ne jouera pas cette saison. On a perdu également les services de des défenseurs de soutien comme Eric Gudbranson, John Merrill. Donc la défensive du Canadien ne ressemblera pas à ce que ça ressemblait en série. Et je trouve qu'amener des nouveaux défenseurs dans l'organisation, surtout David Savard, moi je l'adore ce défenseur-là, vient de gagner la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Et là on rajoute un joueur d'expérience, Chris Wideman, qui a joué dans le KHL. Quand même, il a fait très bien parmi les meilleurs défenseur. Ouais. On va avoir vraiment un renouveau à la défensive du Canadien. Et là, j'aimerais que tu me parles. J'ai un nom aussi en tête. Non, le jeune défenseur suédois, Mathias Norlander. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu crois, justement, on en parle beaucoup, lui, de son côté, c'est soit qu'il retourne jouer en Suède ou qu'il veut essayer le gros club avec le Canadien de Montréal. Est-ce que tu crois qu'il peut percer l'alignement dès le premier match de la saison?
Je pense qu'il y a encore beaucoup de lacunes défensivement dans son jeu. Il n'y a aucun doute que ce gars-là, s'il jouait dans la Ligue nationale demain matin, serait très productif. Serait productif offensivement à sa première saison. Il a tout ce qu'il faut pour être bon. Des bonnes mains, un excellent coup de patin, une belle vision, un solide tir frappé. Le problème, c'est qu'il est encore un peu... il y a des défauts dans son jeu défensif. Puis oui. Dans la Ligue nationale, ça ne pardonne pas. Je pense que dans les dernières années, on a eu quelques leçons sur le développement des jeunes. Le Canadien doit prendre le temps de les développer. Je pense qu'une saison supplémentaire en Suède pour Mathias Norlander, ce serait le mieux. T'sais, si on veut vraiment l'avoir pour une douzaine d'années à Montréal, puis qu'il y ait du succès, qu'il soit solide, ben, je pense que c'est la chose à faire.
Et surtout que du côté du Canadien, on a surtout vu un peu, au cours des dernières années, de la patience avec nos jeunes, mais plus avec nos jeunes défenseurs. Je pense à Alexander Romanov. L'an dernier, a joué, mais est-ce qu'il n'a pas joué notamment tous les matchs dans la saison? On l'a beaucoup enlevé de l'alignement en séries éliminatoires. Donc, je crois que du côté de Norlander, on va vivre la même chose qu'Alexander Romanov. a vécu. On va être beaucoup patient du côté du Canadien. On va attendre avant de lui donner un gros rôle. Je crois que justement, l'arrivée de Chris Wideman en dit gros sur ce que le Canadien veut l'année prochaine. On va faire jouer des vétérans. On va faire confiance à notre défensive, une défensive fiable. Et les jeunes, on va les laisser se développer. Et je crois que du côté de Norlander, une saison en Suède, ça va être bénéfique pour lui. On va se le dire. Et là, une autre acquisition du Canadien que j'aimerais parler, Mike Hoffman, un joueur qu'on qualifie de marqueur, peut marquer des saisons de 30-35 buts. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Hoffman avec le Canadien de Montréal?
Ben, je pense qu'il vient remplacer directement Tomáš Tatar. C'est un joueur qui a un petit peu plus de talent brut que Tomáš Tatar. C'est vraiment un joueur qui va être utilisé sur l'avantage numérique. Je pense que ça l'a fait défaut un peu chez le Canadien dans les dernières années. Ça a été un peu moins pire l'an dernier, mais je pense qu'on pouvait encore s'améliorer, puis ce gars-là vient vraiment aider. C'est un gars tellement dangereux. S'il est tout seul, puis qu'il prend un tir, ça finit souvent dans le fond du filet. C'est vraiment un atout majeur sur un avantage numérique.
Oui, il va probablement jouer sur l'avantage numérique. Ça ne m'étonnerait pas de le voir à la pointe ou même peut-être un duo sur l'avantage numérique avec Caulfield. On va avoir un marqueur de chaque côté. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté d'Hoffman. Je ne sais pas, ça va être vraiment un complément à l'attaque qu'on ajoute. C'est un joueur que je trouve qui est un peu... On ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. On l'a vu l'an dernier avec les Blues. Il a été un essai professionnel chez les Blues de Saint-Louis. Ça n'a pas tout à fait marché de son côté, du côté des Blues. Est-ce qu'avec le Canadien, on peut avoir un nouveau départ? Moi, je crois que oui. Le Canadien, c'est une équipe, justement, qui donne une deuxième chance à des joueurs. On l'a vu avec des petits joueurs. Tu sais, c'est juste des noms comme Ilya Kovalchuk en fin de carrière. Le Canadien l'avait fait jouer, avait bien fait. Corey Perry, des joueurs que, justement, ils peuvent changer leur carrière à Montréal. Et je crois que ça va être le cas de Mike Hoffman. Et du côté maintenant des départs, j'aimerais qu'on en parle. On a Tomáš Tatar, Corey Perry, Philippe Danault et Shea Weber, Jesperi Kotkaniemi, on en a parlé tantôt. C'est 5 gros départs du côté du Canadien, des joueurs qui étaient dans la formation lors de la finale de la Coupe Stanley l'an dernier. Alors toi, de ton côté, c'est quelle est la plus grosse perte pour le Canadien dans tous ces joueurs-là?
Je dirais Shea Weber. Je sais que c'est pas un vrai départ, c'est vraiment une blessure à long terme qui risque de compromettre sa carrière. Mais je pense qu'il enlève vraiment une grosse stabilité dans la défensive du Canadien. On l'a vu en série, il peut avoir encore un très gros impact, très physique. Son tir frappé est encore très respecté dans la Ligue. Je pense que ça va vraiment faire mal aux Canadiens.
Oui, moi aussi, je crois que ça va faire mal du côté de Shea Weber. Il va falloir justement que Jeff Petrie prenne les devants et qu'il soit le corps arrière du Canadien de Montréal, parce que sinon, je ne vois pas un autre défenseur avec le Canadien faire un gros travail en tant que défenseur numéro un. Mais aussi, moi, la peine... Un joueur que j'aimais avec le Canadien et qui maintenant s'en va jouer avec le Lightning de Tampa Bay, c'est Corey Perry. Pour moi, un joueur qui était vraiment aimé par les fans à Montréal. Il jouait, pivotait souvent le troisième, quatrième trio. Alors, on va pouvoir voir ça du côté de Perry. Il va jouer avec le Lightning de Tampa Bay cette saison. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire, parce qu'avec le Canadien, ça l'enlève un gros joueur sur le quatrième trio qu'on va peut-être pouvoir remplacer par des jeunes joueurs. Mais justement, c'est le Corey Perry. Marquait des buts importants l'an dernier en séries éliminatoires. Moi, c'est le joueur qui me fait le plus de peine à voir partir jouer dans une autre équipe de la Ligue nationale. Et là, on va parler des jeunes du Canadien. Si je sais que tu adores les jeunes comme moi, là, tu m'as marqué 3 noms. J'ai bien hâte de t'entendre parler de ces 3 jeunes joueurs-là. Caden Goulet, Mathias Norlander, qu'on en a parlé au début de l'émission, et Ryan Poehling. Est-ce que tu crois qu'un de ces joueurs-là pourrait percer l'alignement du Canadien comme l'a fait quelques jeunes l'an dernier?
Je pense que celui qui a vraiment le plus de chances d'y arriver, c'est Ryan Poehling. Il a connu une excellente saison l'an dernier avec Laval. Je pense qu'il est vraiment prêt à s'essayer dans la Ligue nationale, de s'établir là-bas. Avec le départ de Philippe Danault puis Jesperi Kotkaniemi, il y a vraiment une place au centre qui se libère. Et je pense que ce gars-là a le potentiel puis va vraiment avoir la chance de pouvoir s'établir dans la Ligue nationale.
Je suis du même avis que toi. Je ne vois pas Norlander égoulé commencer la saison à Montréal. Tandis que du côté de Pelling, je peux le voir sur un quatrième trio, sur le quatrième trio du Canadien de Montréal. C'est un joueur que j'aime bien, un joueur qui joue des deux côtés de la patinoire, et c'est exactement ce que Dominique Ducharme va rechercher dans son alignement. Selon moi, un joueur comme Ryan Pelling pourrait être une surprise du côté du Canadien. Et là, en vue de la prochaine saison qui commence dès le début du mois d'octobre, j'aimerais savoir, on va faire quelques petites prédictions du côté du Canadien de Montréal. Première prédiction, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu crois que le Canadien pourra encore se qualifier pour les séries d'après-saison encore cette année?
Mais je pense que ça va ressembler un peu à l'an dernier. Tu sais, je sais que le contexte n'est pas le même, ce ne sera pas les mêmes divisions, ce ne sera pas les mêmes adversaires, mais je pense que le Canadien, dans les dernières années, a vraiment montré qu'ils peuvent être compétitifs, même quand les gens pensent qu'ils ne pourront pas l'être. Je pense que c'est vraiment les dernières places, les 7-8e places pour se qualifier en série qui vont être dans la mire du Canadien.
Moi aussi, encore une fois, je suis du même avis que toi. Je crois que le Canadien va réussir à se classer parmi les équipes repêchées cette année. C'est une équipe qui va en surprendre plusieurs et je suis sûr que les équipes qui vont finir au premier, deuxième rang ne voudront pas affronter le Canadien en séries éliminatoires après ce qu'on a fait l'an dernier pour se rendre en finale de la Coupe Stanley et battre plusieurs grosses équipes dans la Ligue. On va faire peur à des équipes et c'est exactement dans le rôle que le Canadien est très bon. Et là, une autre petite question. Qui, dans les joueurs du Canadien qu'ils vont jouer cette année, quel joueur, selon toi, va être une surprise, une révélation l'an prochain?
Je dirais Christian Dvorak encore. J'en ai parlé un peu au début.
Oui.
Mais je pense que ce gars-là va vraiment éclore à Montréal. Il commence sa saison à 25 ans. Beaucoup de joueurs dans ces eaux-là à 25-26 ans qui vraiment jouent les meilleures années de leur carrière. Ce gars-là est extrêmement complet. Il va vraiment apporter quelque chose de spécial aux Canadiens. Je pense qu'il va vraiment étonner beaucoup de monde.
Moi, je vais y aller du côté de Jeff Petrie. J'en ai parlé tout à l'heure. Je crois justement qu'il va être la révélation du Canadien. Il va montrer qu'il est capable d'être un défenseur numéro un. L'an dernier, il a joué souvent sans Shea Weber, qui était beaucoup blessé l'an dernier. Il a montré des belles choses. Et je crois que cette année, dans une année complète, on va voir des belles choses de Jeff Petrie. Et là, pour finir, dernière petite question. Je t'ai demandé la révélation, mais là, un peu l'échec, le flop que tu vois du côté du Canadien l'an prochain. Un joueur que tu crois qu'il va pas performer au-delà de ses attentes.
Je dirais Cédric Paquette, Chris Weidman, ce serait ces deux-là. C'est vraiment des... C'est parce que c'est difficile de leur trouver une place dans l'alignement. Weidman, peut-être, mais c'est parce que le problème avec Weidman, c'est qu'il n'a pas fait ses preuves dans la Ligue nationale. Il a déjà 31 ans. Oui, il a bien fait dans la KHL, mais j'ai comme pas des grosses attentes pour lui. C'est vraiment un guess, comme on dit, là, dans le monde du hockey. Là, c'est vraiment, on prend une chance du côté du Canadien de voir s'il va pouvoir apporter quelque chose. Pour Paquette, l'an dernier, ça a été difficile. Il a été changé plusieurs fois. C'est un joueur qui s'est limité au rôle de quatrième trio. Puis
oui.
Avec le Canadien, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur le quatrième trio. Ça va être peut-être très difficile pour lui.
Moi, je vais y aller avec Mike Hoffman. Ça va peut-être te surprendre, mais je crois que les attentes sont trop hautes de son côté. On l'a vu l'an dernier, comme j'en ai parlé avec les Blues. Les gens s'attendent à ce qu'il marque des 35-40 buts. Mais moi, je trouve que c'est pas ce joueur-là. Va donner un très bon rôle sur l'avantage numérique. Va pouvoir faire des points, c'est certain. Mais est-ce qu'il va atteindre le potentiel de marqueur que le Canadien veut qu'il soit? Je ne le crois pas. Moi, je crois que le duo, ça va être Nick Suzuki et Cole Caulfield qui vont produire du côté du Canadien. Et je crois que, justement, c'est un joueur comme Mike Hoffman qui pourra, justement, avoir mal un peu de ce duo-là parce qu'il va en subir les conséquences. Et là, on va aller en pause. Ensuite, on va revenir avec d'autres discussions par rapport à la Ligue nationale et la NBA. On s'en va en pause musicale avec Get It Right de Corias. Get it right, hey, hey, hey. Get it right, hey, hey, hey. Get it right, hey, hey, hey. Get it. Skip on track sur le disque, eh. Bicarbonate dans le mix, hey. Lit sur les angles solitiques, hey. Menzillo pass sur les kicks, hey. Fais pas ton smart avec l'équipe, hey. I'm getting cash for the kids, eh. Le cachet dans les 5 chiffres, hey. Bang du mille cash pour une gig, eh. J'suis le monarque, j'suis le king, eh. T'es comme si ma naka est sick, eh. Pas de chômage, j'fais mon shift. Pédale à fond quand j'embarque sur la piste, hey. J'ai lu des pages de lyrics, j'ai tellement j'me tape sur les cuisses, hey. Mon shit de mat, toi t'es in, hey. Toi t'es des calories vides, hey. Hey. Get it right, hey, hey, hey.
Je fais du rap sur des disques. Pareil, c'est pas de la vraie musique. Même pas capable de jouer de la guitare, mais je deviens Hendrix sur un clavier sans fil. Hey, pourquoi je fais du rap sur les disques? Pas pour le cash et les bitches. Si je le faisais pour les femmes et le fric, je prendrais la place d'un ministre. Hey, pourquoi je fais du rap sur les disques? Pour tuer les rappers du site. Hey, je vous haïs tous à égalité. Je fais pas de favoritisme. Pourquoi je fais du rap sur les disques? Je devrais juste m'arracher du site. Hey, je pars dans l'espace avec Valérie Plante dans le vaisseau spatial de Régis. Ciao. Hey, hey. Sur le disque, bicarbonate dans le fridge, hey. Mets de la petite vache dans le mix, il faut que les ayas deviennent épileptiques, hey. Mets du fromage sur les frites, gravy on top of the shit, hey. Pussy rappers pour le main course, cyprine en apéritif, ça c'est mon jam, c'est mon shit, dis-moi non, c'est quoi de la pectine, tous city rappers, les kids, les finissent d'être comme les spermatozoïdes, hey. J'porte une cravate puis un string, sur le tapis du gars artiste, hey. Un journaliste me critique, j'y fous une soufflette, j'y sac une mornif, hey. Regarde-moi les yeux, c'est pas trop gênant, habillé en rouge dans un show de Saint-Jean. Dans le catering avec Paul Piché. Fucking heureux d'un rouleau de printemps. Je roule dans une cive avec les fenêtres baissées. J'écoute mon shit avec un air fraîchier. Dites à ma mère que son fils est shit. Dites à mes filles que leur père est great. Pourquoi je fais du rap sur les disques? Hey. Play sur les tracks, c'est mon medicine. I'm getting cash for the kids. Hey. Tu peux bien garder ton lèche-vitrine. Pourquoi je fais du rap sur les disques? Hey. Je devrais juste m'arracher du site. Hey. Je pars en backpack au Brésil. Coriace devient big en Amérique latine. Ciao. Hey, hey.
J'écoute des émissions, là, du pain puis des jeux pendant une heure et demie de temps, qui nous parlent d'un radio vidange, entre autres. Là, ils nous parlent de ça. Là. Ils nous parlent du sport puis ils nous parlent. Ils parlent même pas français, ils sont même pas capables. Où est-ce qu'est l'esprit identitaire dans tout ça? L'esprit identitaire de nous autres, notre peuple. Là.
Vous êtes de retour à la conduite antisportive sur les ondes de Chiz 94.3 avec Nathanaël Paul et Guillaume Séguin. On revient sur des belles paroles de l'esprit identitaire. J'aime bien revenir de la pause musicale avec cet extrait. Ça me donne le sourire à chaque fois. Et là, pour continuer sur le segment hockey, on va y aller avec une nouvelle qui touche encore le Canadien, qui touche un joueur en particulier, Jonathan Drouin. Vous avez probablement vu la nouvelle passer dans votre ordinateur, dans votre télé. On en parle quand même beaucoup de Jonathan Drouin ces temps-ci. Jonathan Drouin qui a récemment accordé des entrevues à TVA Sports et à RDS pour raconter les problématiques qu'il a eues concernant l'anxiété qu'il a développée dans les dernières saisons et comment ça l'a affecté professionnellement et personnellement. J'ai une question un peu pour toi, Guillaume, par rapport à ça. Est-ce que tu crois que le phénomène de Jonathan Drouin, ce qu'il a vécu, on en parle beaucoup vu que c'est un joueur du Canadien. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres joueurs qui vivent ça, mais qui n'en parlent peut-être pas?
Ben, je pense que oui. Il y a beaucoup de gros marchés dans le hockey où la pression est énorme. C'est pas juste à Montréal. Je pense que c'est répandu ailleurs. Puis je pense que justement, à Montréal, on en a eu peut-être plusieurs joueurs de même qui ont ressenti la pression. T'sais, je nomme des noms de même, là, mais mettons, je sais pas si vous... Voyons, si vous vous souvenez de Scott Gomez.
Oui, oui je m'en souviens.
Il a dû ressentir pas mal la pression.
Je m'en souviens de Scott Gomez. J'ai même encore son chandail chez moi. J'aimerais le brûler, mais malheureusement, je l'ai gardé vu que je vais peut-être mettre un bout de tape sur son nom pour qu'on l'oublie un peu. Mais oui, je m'en souviens.
Mais oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont dit la difficulté, des critiques, qui ont peut-être ressenti de l'anxiété. J'ai vu récemment que Stéphane Richer a dit avoir ressenti une situation semblable à l'époque. Tu sais, la pression, c'est... dans le marché de Montréal, est juste énorme. Je pense que c'est vraiment, d'après moi, ce phénomène qui est répandu, mais qui est tabou un peu.
Surtout pour les joueurs québécois qui évoluent à Montréal, ça doit être encore plus difficile. C'est une pression encore plus énorme pour ces joueurs-là. C'est ce que Jonathan Drouin a vécu. Moi, du côté du Canadien, ça doit être vraiment beaucoup du côté des joueurs québécois. Mais dans d'autres marchés de la Ligue nationale, je pense à des équipes qui sont aspirantes à la Coupe Stanley à chaque année et que leurs gros joueurs ne fonctionnent pas. Je m'en allais justement à cette équipe-là, Toronto. on va tout le temps pointer du doigt des joueurs, que là, ça a été Frédéric Anderson, gardait mal les buts.
Matthews Marner.
On peut les critiquer, on va les pointer du doigt. Et ça, c'est certain que ça doit affecter un joueur mentalement, que ça peut être dans n'importe quel sport. Je pense au football, au basketball, au baseball, une mauvaise performance. On dirait le sport, c'est tellement imprégné dans le sang des partisans maintenant qu'on pense pas ce qu'on dit. Et justement, ça peut faire vivre des périodes comme ça, des périodes difficiles pour un joueur. Je crois que Jonathan Drouin, justement, en a parlé avec, vu que c'est un marché ici à Montréal, mais les autres joueurs, c'est sûr qu'il y en a qui vivent ça, mais qui n'en parlent pas justement. Et je peux pas croire que c'est le seul joueur à vivre ce genre de problème, de la part de problèmes d'anxiété, que ses performances sur la glace, que ça l'affecte en dehors de la glace. Moi, je suis certain que dans d'autres sports, c'est très présent. On va passer maintenant à un autre sujet, les nouvelles du jour de la Ligue nationale maintenant. Plusieurs signatures aujourd'hui et hier, on en a vu quelques-unes. J'aimerais en parler de 3 ou 4 signatures avec toi. On va commencer avec le joueur vedette du Wild du Minnesota, Kirill Kaprizov, qui signe un contrat de 5 ans et 9 millions par saison. C'est énorme. Est-ce que tu crois que ce joueur-là mérite ce contrat-là ou que c'est un peu trop payé pour lui?
Ben, je pense que c'est vraiment le joueur et son agent qui ont gagné là-dedans. Ça fait des mois que Kaprizov demande ce contrat-là. Le Wild voulait pas. Le Wild voulait le signer soit à long terme, soit à plus court terme, à un montant un peu plus raisonnable. Finalement, ils n'ont pas eu le choix. Ils l'ont payé 5 ans, 9 millions par année. Selon moi, c'est un peu trop, même beaucoup pour un joueur que... T'sais, oui, il a connu du succès, mais il n'a pas encore fait tout à fait ses preuves.
C'est sûr, c'est beaucoup ce que les gens critiquent justement de les performances de Kirill Kaprizov. C'est juste basé sur une saison. Mais moi, je trouve, à l'avoir vu jouer, je trouve que c'est un joueur d'impact et c'est la face du côté du Wild du Minnesota. On ne pouvait pas se permettre de perdre ce joueur-là. Et c'est justement ce que l'agent de Kaprizov et Kaprizov ont mis sur la table. Sans Kaprizov, je crois pas qu'on aurait eu le même Wild du Minnesota que l'an dernier. Donc, pour moi, il vaut ce contrat-là. Chaque joueur, chaque équipe a son joueur vedette. Et du côté du Wild, c'est Kaprizov. Un autre contrat, Rasmus Dahlin à Buffalo, signe 3 ans pour 6 millions par année. C'est beaucoup ou pas assez payé?
Ben, compte tenu que Buffalo a beaucoup de difficultés à garder ses joueurs, je pense que c'était le minimum à lui donner. Je pense que c'est déjà beau qu'ils réussissent à le signer puis qu'ils ne demandent pas un échange. Je sais que c'est méchant pour Buffalo, là, mais ces temps-ci, c'est très difficile là-bas. Je pense que juste le fait de pouvoir le garder, c'est une bonne chose. Puis la bonne nouvelle, c'est que 6 millions, c'est moins que Jesperi Kotkaniemi à 6,1 millions.
C'est vrai, c'est vrai. Je te donne d'accord. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose du côté de Dahlin. Un contrat qui n'a pas été... C'est sûr, il joue avec les Sabres de Buffalo. C'est difficile de juger. C'est une équipe médiocre ces temps-ci. Les partisans de Buffalo ne doivent pas être contents de leur équipe en ce moment. Donc, c'est difficile de juger le jeune défenseur qui est vu comme un prodige à la défense. 3 ans, 6 millions, ça va lui laisser encore un peu de temps pour montrer ses vraies capacités. Et un autre contrat que j'aimerais parler, Robert Thomas, du côté des Blues de Saint-Louis, qui signe pour 2 ans, 2,8 millions par année. Un jeune joueur, qu'est-ce que tu en penses de ce contrat-là?
Bien, moi, je pense que c'est un joueur de centre de troisième trio. Parfait. 2,8 millions, c'est pas très cher. 2 ans, c'est vraiment un contrat qu'on appelle bridge là, dans la Ligue nationale. Ça va lui permettre d'aller signer un plus long contrat après ça. Il va vraiment faire ses preuves dans ce 2 ans-là. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est gagnant-gagnant pour le club et pour le joueur.
Oui, c'est un jeune joueur, donc on va bâtir sur ça. Et c'est un peu un contrat, comme tu l'as dit, un contrat passerelle qu'on va 2 années pour justement prouver sa vraie valeur. Un autre contrat qui est tombé ce matin, Carl Pettersson, le gardien de but des Kings de Los Angeles, qui est signé 5 millions pour 3 ans, je crois. Est-ce que tu trouves que c'est un bon contrat pour un gardien de but de la taille de Pettersson à Los Angeles?
Je suis plus ou moins convaincu. Je suis d'accord pour dire que c'est un gardien de la Ligue nationale qui peut faire le travail, mais je trouve que 5 millions, c'est beaucoup pour un gardien qui n'a pas tant fait ses preuves.
Oui,
oui, il est bon. Mais je suis pas sûr encore de ce contrat-là.
Moi aussi, je suis pas tout à fait sûr, mais en même temps, on dirait que les Kings de Los Angeles sont vraiment dans un virage jeunesse présentement. Probablement le meilleur noyau de jeunes joueurs dans la Ligue nationale. On le voit avec leurs jeunes présentement dans le tournoi des recrues. C'est tout simplement incroyable. Et là, on voit que du côté de Pettersson, c'est peut-être notre gardien d'avenir. Donc, on lui a donné un petit contrat de 5 ans pour 3 ans. On va voir ce qu'il va faire durant ces 3 années. Et du côté de Pettersson, on espère qu'il va performer parce que du côté des Kings de Los Angeles. Quick est en pente descendante. Donc, on a besoin d'un sauveur. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté de Pettersson. Et là, assez parlé de hockey. On va aller en pause publicitaire. Ensuite, on va revenir avec une chronique de basketball, parler un peu de football, de UFC. On reste à l'antenne. On s'en va en pause publicitaire.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Laisse-la encore, je la vois parfait. Je ride dans une Merco. J'ouvre la fenêtre, mais il fait chaud. Guerre sous les vibratos. Oh yeah, y'a no coup. Habillonné, mais je mets. J'te call back si j'avais le vrai. Faut répondre aux attentes. Yeah. Faut remonter la pente. And I be riding, shake my back on. Mon chick, but I'm my bro. Rouling out the fat on. And I be riding loin la maison. Voyage plein pour la saison. Oui, bro, j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis bien installé avec mon équipe. Sans la nuit, smoking weed. Ah, and I be riding on my own. Ah, parce que les bons amis, on les compte. Yeah, tout le monde est seul. Le papillon, je suis un gentleman. Mon rap est partout, man, tu vois les villes. Yes, si je participe pour plusieurs villes. Yes, je pull up on le money. Toujours vêtu de jambes, pas besoin de m'isoler. M'en fous parce qu'il y en a qui sont juste bon pour rien. Ouh, j'garde quand même un smile. Faut pas que tu vends ton âme. Faut mieux que tu viennes, c'est là. J'ai tout gardé en dents. J'ai tout gardé pour toi. Just keep it smooth, man. Fume la Maria. Le dunk est malléable. Y'a le sac est musical. Oh, 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 Maria. Oh, Maria. J'te consomme en 5 minutes. J'me réveille à la marina. Yeah, 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 yeah.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Découte!
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Vous vous êtes de retour à la conduite antisportive sur les ondes de Chiz 94.3 avec Nathanaël Paul à l'animation, Guillaume Séguin, et j'ai accueilli pendant la pause mon co-animateur, mon chroniqueur NBA, une recrue dans l'équipe cette année, Raphaël Ouellette, un fan de NBA. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Très heureux d'avoir quelqu'un pour qui, avec qui parler de NBA. C'est un peu... On n'est pas tout à fait des experts, moi puis Guillaume. Ça va être toi l'expert aujourd'hui. Donc, je vais te laisser un peu parler de ça. Je sais qu'il y a un cas que j'ai entendu parler hier, le cas de Ben Simmons. J'aimerais un peu t'entendre sur la situation du joueur vedette des 76ers de Philadelphie.
Ouais, ben merci. Merci de me donner la chance de m'exprimer, pas juste tanner mes parents puis mes frères et sœurs avec ça. Ben dans le fond, c'est ça. Ben Simmons, c'est le drafté en 2016, premier choix, avec un gros potentiel.
Oui.
Il a jamais eu un bon jump shot non plus. Fait que ça a toujours été... ça a toujours été... par les fans, ça a toujours été un problème parce qu'ils voulaient vraiment qu'il développe un shot, mais il est pas capable. Fait que, dans le fond, il fait juste drive au panier. Puis, dans le fond, dans les dernières séries, il y a comme un peu... En bon français, il y a choke.
OK,
dans le fond,
OK.
Il y a... Il avait comme peur, il attaquait au panier, mais il faisait une passe au lieu de dunker, même s'il était capable.
Ça va mal de son côté, là.
C'est ça, il avait perdu un peu de confiance là, avec ses performances en série. Puis dans le fond, pendant l'été, ben, son cas s'est vraiment aggravé, surtout ses relations avec son équipe. Donc, il a arrêté complètement aucun contact avec l'équipe pendant tout l'été.
OK.
Jusqu'à dernièrement, en fin août, il a repris contact, il a fait une réunion avec son équipe et son manager. Puis à ce moment-là, ben il a dit clairement que plus jamais il a envie de jouer avec cette équipe-là, puis qu'il voulait être échangé.
Est-ce que tu crois qu'il y aurait une équipe qui serait disponible à accueillir un joueur de la trempe de Ben Simmons? Il va coûter cher quand même, là.
Ouais, mais déjà, son contrat est de 35, à peu près 35 millions, s'il a signé un contrat max, comme il appelle dans la NBA. De rookie.
Okay. Fait
que son contrat, il en reste pour 3 ans, 35 millions par année environ. Fait que c'est un gros contrat, premièrement. Puis les Sixers, ils demandent gros en échange. Beaucoup d'équipes sont intéressées. La plupart des équipes aimeraient l'avoir dans leur équipe parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a un gros gabarit, il y a une bonne défense. Puis il peut attaquer sur n'importe qui, puis il peut défendre n'importe qui. Le seul problème, c'est que la plupart des offres des équipes, même sont très généreuses, ça convient pas aux 76ers qui veulent des jeunes joueurs, ils veulent beaucoup de picks.
Choix au repêchage, oui.
Oui, puis mettons, pour donner un exemple, un trade qu'aimerait quand même faire, un échange qu'aimerait faire, c'est Kyrie Irving des Nets, qui demande, mettons, il demanderait Kyrie Irving plus, mettons, deux choix de première ronde là, en échange de Ben Simmons, ce qui est gros, ce qui est beaucoup.
Ah, c'est vraiment beaucoup, mais j'ai vu aussi deux équipes être intéressées. Est-ce que tu crois qu'une de ces deux équipes-là, entre les Warriors ou les Timberwolves, vont être intéressées à l'acquérir? J'ai vu que c'est des destinations possibles. Ce matin, ça parlait beaucoup du côté des Warriors. Faudrait donner gros, là, du côté, peut-être même notre ancien premier choix, notre choix, là, James Wiseman. James, est-ce que tu crois qu'il serait dans l'échange?
Déjà, à la base, pendant l'été, Ben Simmons alimentait les rumeurs comme de quoi il voulait être échangé, puis il disait que ses destinations favorites seraient dans Californie. Donc, les Lakers, les Clippers, les Kings de
Sacramento.
De Sacramento, puis les Warriors.
OK.
Donc, déjà ça, ben après ça, il a élargi parce qu'il n'y avait pas d'offre. Mais oui, c'est ça. Pour venir aux Warriors, oui, probablement que Wiseman serait là, mais ça coûte aussi perdre leur point guard, leur meneur de jeu principal qui est Ben Simmons. Ça leur prend
un joueur pour le remplacer.
Fait que ça serait probablement, pas nécessairement un point guard, mais ce qu'il demanderait probablement, ce que j'ai vu, ce qu'il demandait, c'est quelque chose comme Jonathan Kuminga, qui est le pick 7 de cette année.
Oui.
James Wiseman. Puis pour niveau salaire, ça serait probablement avec Draymond Green ou un autre vétéran. Sinon, il y aurait possibilité d'échanger avec Klay Thompson, qui, par contre, niveau blessure, il est pas sûr. Il va revenir cette année. Il est supposé revenir, mais il est fragile. Donc, ça serait peut-être pas la meilleure des échanges. Puis encore là, il demanderait des picks. Puis pour ce qui est des Timberwolves, ben il y aurait Russell, D'Angelo Russell,
oui,
qui pourrait être un bon remplacement au niveau du point guard pour les 76ers, qui a un contrat... quand même assez élevé, qui serait bon pour matcher, mais il demanderait aussi le jeune Anthony Edwards, qui est le pick 2 de la, Le premier.
Le non, numéro le, un, oui, de l'année ouais, à James Wiseman.
La première année de l'année, le premier pick de l'année passée. Là. Fait que c'est, il demande beaucoup quand même, mais.
Et les 76ers, ils croient que Ben Simmons, c'est un dieu du basket. Je comprends pas leur prix fou qu'ils demandent aux autres équipes. Ce que tu viens de me dire, hein, un choix numéro un, et Anthony Edwards a joué très bien à sa première saison. Là, on demande D'Angelo Russell. Ce qu'ils vont demander, Carl Anthony Town en plus, et ils veulent toute l'équipe, c'est quoi?
Ben, ils veulent un remplacement au niveau du point guard. Ils ont de la relève niveau rookie avec Tyrese Maxey. Mais encore là, c'est pas assez fort pour complémenter Joel Embiid, qui est le principal offense des 76ers avec Tobias Harris.
Ouais.
Mais c'est ça, ils vont demander. Sinon, ils pourraient. Tu sais, mettons les Raptors, ils ont proposé déjà Fred VanVleet. Je pense qu'il y avait aussi. Il y avait au moins Fred VanVleet dans le trade. Peut-être OG Anunoby, mais ça serait vraiment surprenant. Mais c'est ça, il y avait Fred VanVleet qui serait comme un échange. Sinon, il y a déjà eu des pourparlers avec Kyle Lowry à l'époque quand il n'avait pas encore été échangé avec Miami. Mais c'est ça, ça convenait pas aux 76ers qui évaluent Ben Simmons quand même avec une grosse valeur, une valeur de 5 étoiles.
OK. Et là, j'aimerais que tu changes un peu de sujet. On va changer un peu de sujet par rapport à la NBA. J'aimerais que tu me parles, on va parler un peu plus des Raptors, mais plus précisément du dernier choix au repêchage des Raptors. Je sais que tu le connais bien, Scottie Barnes. Qu'est-ce que tu penses un peu de lui? Est-ce que c'est un joueur qui va... C'est une très bonne sélection du côté des Raptors ou on aurait dû y aller peut-être avec un autre joueur?
Ben moi, ça fait plusieurs années que je suis la NCAA, puis même le high school, puis dans le fond, Scottie Barnes... qui jouait avec Kate Cunningham à l'époque. Ça fait longtemps que je les suis. Puis, ben, en fond, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content qu'ils l'ont choisi. Quand ils l'ont choisi, en fait, parce que j'ai probablement même dansé comme il a dansé, lui, à la draft, quand il était choisi.
Okay.
J'étais vraiment euphorique. Selon moi, c'est un excellent choix avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel pour une équipe comme les Raptors, avec un coach comme Nick Nurse qui privilégie la défense, mais aussi avec un développement très poussé des joueurs. Parce que peu importe dans le fond d'où tu viens ou comment tu joues, ils ont vraiment un bon coaching staff et un bon training staff qui permet de développer des joueurs comme OG Anunoby qui est arrivé avec une défense beaucoup plus avancée que son offense. Mais là, il se développe à un joueur qui peut peut-être scorer autour de 20 points par game là, dans les prochaines années. Puis c'est un joueur, Scottie Barnes est un peu comme un OG Anunoby plus long avec un wingspan de une envergure de 7 pieds, 3 pouces, ce qui est énorme, avec un athlétisme des plus grands.
Okay.
Puis avec beaucoup, beaucoup de potentiel pour vrai, c'est un excellent choix. Il y avait Jalen Suggs aussi qui avait été dans les rumeurs pour le quatrième choix. Mais au niveau de point guard, ils ont déjà choisi l'année passée Malachi Flynn.
Il fait très bien, lui, présentement. Il
est un excellent choix au 29e pick l'année dernière. Puis qu'il y a beaucoup de potentiel aussi avec un développement avec une équipe comme les Raptors. Puis il y a Fred VanVleet là, qui va mener l'offense cette année.
Et du côté de Scottie Barnes, est-ce que tu crois justement qu'il pourrait jouer cette année, là?
Ah, c'est sûr qu'il va être sur l'alignement de départ, mais peut-être pas l'alignement de départ, mais il va être sur l'alignement, c'est sûr,
il va jouer une vingtaine de minutes par match, tu serais pas surpris de voir ça.
Puis en attendant l'arrivée de Pascal Siakam qui a eu une chirurgie pour son épaule, après moi, ça se peut qu'il soit sur le 5 de départ au début de la saison.
Oh, OK, j'ai hâte de voir ça. Là, la NBA, je crois que ça commence le 6 octobre prochain avec un match entre les Nets et les Lakers. Je suis pas sûr, mais semble.
Ouais, les matchs hors concours.
On va se fier, bien, c'est ça. Ça commence le 6 octobre prochain. Là, présentement, c'est la Summer League, je crois, avec les jeunes, où c'est terminé.
La Summer League est terminée. Là. C'est les training camps qui commencent là, avec leur sélection de 20 joueurs qui vont évaluer, puis maintenant, ils vont couper des joueurs.
OK, OK. Donc, on va s'en reparler à chaque mercredi. Tu vas être là pour faire tes chroniques basketball. Écoute, tu nous en apprends à moi puis Guillaume. On n'est pas
vraiment
tout à fait des fans. Même, on n'a même pas entendu parler Guillaume. D'après moi, il écoutait et il prenait des notes. Là, on va passer du côté de la NFL, un sport que j'aime bien, le football. C'est recommencé. Là, on commence la semaine numéro 3 dès demain avec un affrontement qui plaira peut-être pas aux fans. C'est pas le plus gros affrontement. C'est pas un match digne du Super Bowl. C'est les Panthers de la Caroline qui vont affronter les Texans de Houston. Et les Texans de Houston m'ont surpris parce qu'ils ont présentement une fiche de une victoire, une défaite. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 0 victoire, 2 défaites. Mais finalement, ils ont surpris une équipe à la première semaine, les Jaguars de Jacksonville. Donc, ça va être un petit match demain. Je sais que vous connaissez peut-être pas ça, les gars. Mais là, les Panthers, faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, c'est une équipe qui me surprend énormément. 2 victoires importantes dès le début de saison. ont un nouveau corps arrière, Sam Darnold, qui apparaît. Il est parti des Jets, les modiques Jets. Désolé s'il y a des fans des Jets qui nous écoutent présentement, mais ça fait pas mal dur en ce moment. Et Sam Darnold est sorti des Jets pour aller aux Panthers. On ne savait pas trop quoi faire. Et boum, il a explosé 2 victoires et a massacré les Saints la semaine dernière. C'est tout simplement incroyable ce qu'ils font, les Panthers. On pourrait peut-être avoir 3 victoires pour commencer la saison dans une division qui... une équipe que pas mal tout le monde connaît, les Buccaneers de Tampa Bay, une autre équipe qui a 2 victoires, 0 défaite. Et là, peut-être que vous connaissez peut-être pas les deux équipes, mais j'aimerais quand même que tu me fasses une prédiction, Guillaume, entre les Texans et les Panthers de la Caroline pour le match de demain. Genre, tu dois un peu avoir un doute de qui devrait gagner.
Mais moi, je dirais les Panthers. Sam Darnold, depuis son déménagement, amène vraiment quelque chose de spécial à l'équipe. Fait que je pense que ça va faire la différence.
Moi aussi, j'y vais pour les Panthers de la Caroline. On y va avec trois victoires de suite pour commencer la saison. Toi, Raph, est-ce que tu nous suis ou tu y vas pour les Texans de Houston?
Ben, moi, je vais me faire l'avocat du diable puis je vais aller avec les Texans.
Les Texans de Houston, OK, je vais te laisser en douter. Parce que là, en plus, les Texans de Houston n'auront pas leur corps arrière principal pour le match de jeudi. Ils n'auront pas aussi Deshaun Watson, qui est le corps arrière habituellement, mais qui est suspendu par l'équipe où j'ai plusieurs procédures avec lui. Là, ont perdu leur deuxième corps arrière. Et là, ça va être un corps arrière recru qui va commencer. Donc, d'après moi, quelques interceptions de sa part demain.
J'ai peut-être changé mon choix.
Tu te laisses une chance, là, mais sinon, c'est pas plus grave. Tu vas te reprendre la semaine prochaine. Et il y a d'autres gros matchs qui s'en viennent en fin de semaine du côté de la NFL. Mon équipe préférée joue justement les Browns de Cleveland face aux Bears de Chicago. Un gros match, les deux équipes qui sont présentement 1 victoire, 1 défaite. Et du côté des Bears de Chicago, je vais en parler, c'est l'équipe qui affronte mon équipe préférée, mais il y a un joueur que j'aime beaucoup qui va disputer son premier match en carrière dans la NFL, Justin Field, l'ancien corps arrière de Ohio State, qui a été sélectionné, je crois, au 8e rang l'année dernière. C'est tout simplement incroyable. Donc, il va commencer puisque Andy Dalton est blessé pour le prochain match. Donc, ça va être à surveiller, les gars. Dimanche, 13h, ouvrez votre télé, regardez Justin Field à l'œuvre. Et là, pour ceux qui... On va faire un peu un papa, un peu un classement des grosses équipes dans la NFL. Là, il y a les Buccaneers qui dominent présentement le football au complet. Toi, Guillaume, est-ce que tu crois encore aux Buccaneers? On a gagné le Super Bowl l'an dernier face aux Chiefs. On revient 2 victoires pour commencer la saison et des victoires écrasantes. Est-ce que tu crois que les Buccaneers sont encore à prendre au sérieux avec Tom Brady?
Ben, je pense que oui. Brady n'est pas tuable. On dirait qu'année après année, on se rend compte que ce gars-là est toujours capable de performer. Les Buccaneers ont quand même une très bonne équipe en général. Il n'y a pas vraiment de grosses failles. L'équipe n'est pas parfaite, mais c'est une équipe qui performe tout le temps avec un corps arrière qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup d'influence sur cette équipe-là.
C'est un corps arrière, justement. Je suis pas un fan de Tom Brady, mais on peut rien dire sur lui cette saison. Mais là, il y a un gros match qui l'attend dimanche à 4h25, heure du Québec. Les Buccaneers de Tampa Bay qui vont affronter les Rams de Los Angeles. Deux équipes qui sont invaincues jusqu'à maintenant. Et c'est, selon moi, les deux meilleures équipes dans leur association. Deux équipes qui pourraient peut-être se battre pour aller au Super Bowl. Là, ça va être le match qui va décider. On va voir les forces des deux équipes cette semaine. Moi, je vais y aller d'une prédiction. Victoire des Rams de Los Angeles, parce qu'il y a un corps arrière que j'aime bien du côté des Rams, Matthew Stafford, un corps arrière qui a évolué avec les Lions de Détroit pendant des années. Il y a des équipes pourries au hockey, mais les Lions de Détroit, c'est une des équipes qui sont pourries année après année du côté de la NFL. Et jouer pour eux pendant 12-13 ans, ça doit être totalement difficile. Et là, on l'a changé d'air cet été. Il arrive avec une des meilleures formations. Et je crois que justement, il va montrer aux fans et à ses détracteurs qu'il est le joueur, il est le corps arrière de l'avenir pour les Rams. Une victoire des Rams. Toi, est-ce que tu y vas avec les Buccaneers ou les Rams?
Je vais y aller avec les Bucs. Depuis que Brady est là, cette équipe-là est vraiment redoutable. C'est très, très difficile de les battre.
C'est vrai que c'est très difficile les battre, mais là, ça... écoute, j'espère que tu vas regarder le match et tu vas pouvoir revenir mercredi prochain et me dire « Je n'avais pas raison, Nat, les Rams ont gagné. » J'ai hâte de te voir mercredi prochain parce que ça va être tout un match, mais les Rams vont l'emporter.
Vont gagner.
Et toi, Raph?
On va y aller avec le bon vieux Brady.
Tu vas y aller à un autre fan de Brady. Je ne suis pas bien entouré. J'ai hâte que Edouard revienne pour un peu me supporter parce qu'Edouard, je le sais, il n'est pas un fan de Tom Brady. Edouard, c'est un fan des Cardinals, donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'il aura à dire sur ce fameux match entre les Rams et les Buccaneers. Et là, on va passer à un petit segment UFC. Moi, je suis un fan de combat hors martiaux mix. J'adore ça. Et là, il y a un gros gala qui s'en vient samedi, le 25 septembre. Un gala qui oppose deux champions en titre. Un champion en titre et l'autre qui est aspirant. Ça va être Alex Volkanovski, le champion, qui affrontera Brian Ortega dans tout un match. Ça va être tout un combat. C'est attendu depuis... Est-ce que tu connais un peu ça, toi?
Ben, je connais pas beaucoup ça, mais j'ai vu là, leur face-à-face là, pour les photos, là, que ça s'est bousculé un peu. Là. Oui. Ça promet un bon match.
Ça promet un bon combat, surtout que les deux combattants animaient la série L'Ultimate Fighter. Ça fait deux mois que ça jouait pendant deux mois et ça vient de terminer. Ils étaient les deux coachs. C'était deux équipes, avaient environ 10 combattants chaque et ça a amené un tournoi. Et là, les deux, on a pu voir une rivalité. Et là, on a appris que justement, c'était le combat de championnat qui s'en vient entre Alex Volkanovski et Brian Ortega. Selon moi, c'est un très gros combat. J'ai avec ma prédiction, le champion Alex Volkanovski va perdre sa ceinture samedi. Ça va être Brian Ortega qui va lui passer une soumission. Toi, Guillaume, en qui tu crois?
Je pense que ça va... C'est vraiment difficile à dire parce que c'est vraiment deux excellents combattants. Je vais y aller avec Volkanovski. Tout simplement parce que faut vraiment que le Ortega le batte solide pour avoir la ceinture. Parce que sinon, les juges vont donner le bénéfice du doute au champion puis lui laisser sa ceinture.
Et toi, de ton côté, Raph, est-ce que tu y vas avec le champion ou un nouveau champion?
Ben, je vais aller pour la première fois, je vais pas te contredire, là, puis je vais y aller avec,
Brian
avec
Ortega.
La défaite du champion. Là.
Oui, une victoire de Ortega. Il y a un autre combat de championnat dans cette même carte. Cette fois-ci, c'est les femmes qui opposent Valentina Shevchenko, une combattante extraordinaire, face à Lauren Murphy, qui, d'après moi, va regretter d'avoir embarqué dans l'octogone samedi, parce que je m'attends à une victoire écrasante de la championne Valentina Shevchenko. Je peux te laisser voter pour Lauren Murphy, si tu veux, mais je vais te laisser regarder le combat.
C'est Shevchenko, ce combat-là, c'est sûr et certain.
Ça, c'est sûr.
Il n'y a même pas de doute.
Est-ce que tu t'embarques avec nous?
Ouais, je vais aller avec vous autres. Ouais. Avec mes grandes connaissances de combat féminin, là. Ouais. Et même masculin, là, je vais y aller avec vous autres.
Et bonne prédiction. Et dernier combat que je veux parler de ce gala-là, un combat que j'attends depuis longtemps. Nick Diaz, son retour. Ça fait des années qu'il ne s'est pas battu, Nick Diaz. Et il revient, je crois que ça fait... Et un bon 7-8 ans qui n'a pas embarqué dans l'octogone, Nick Diaz. Donc, ça va être un retour et c'est un des combattants les plus connus. Il se battait dans le temps de Georges St-Pierre et c'est le frère au fameux Nate Diaz qui se bat présentement. Il sera opposé à Robbie Lawler. Un combat un peu de deux vétérans de la UFC. T'sais, c'est pas des nouveaux jeunes montants. Voir la face à Nick Diaz et à Robbie Lawler, ils ont l'air pas mal vieux. Alors, moi, je vais y aller avec ma prédiction. Je crois que ça va être une victoire de Robbie Lawler. J'adore Nick Diaz, mais un retour précipité comme ça, après des années à l'arrêt, contre un gars comme Robbie Lawler, que ça fait pas si... Il a recommencé un peu à se battre ces temps-ci. Donc, je crois vraiment que ça va être une victoire par décision de Robbie Lawler. On va y aller avec toi, Guillaume.
Moi, je suis pas d'accord. Je vais y aller avec Nick Diaz.
OK.
Je pense que Diaz peut causer la surprise. C'est quand même un combattant qui est quand même capable d'être spectaculaire, qui est capable de faire vraiment des choses intéressantes sur le ring. Je vais y aller pour Diaz.
OK. J'adore ta prédiction. On va voir. Ça, c'est un combat serré, je trouve, comparativement à lui, à Shevchenko Murphy. Ouais. On va avoir un bon duel. C'est après moi, ça peut aller des deux côtés. Toi, Raph, est-ce que tu y vas avec Diaz ou avec Lawler?
Moi, je vais aller avec Diaz aussi.
Tu y vas avec Diaz? Écoute, moi, je suis un fan de Diaz. Je n'y vais pas avec lui. Je me sens un peu traître. Mais en même temps, je sais pas, j'ai pas tant confiance.
C'est bien la nouveauté.
Ça fait longtemps, c'est bien la nouveauté. Et là, on va finir l'émission d'aujourd'hui avec un tout autre sujet que les combats de la UFC. On va y aller du côté de la Formule 1. Il y a un Grand Prix en fin de semaine. Toi, Raph, je sais que tu suis beaucoup ça. Je crois que c'est le Grand Prix de Russie en fin de semaine.
Oui, c'est ça, le Grand Prix de Sochi en Russie. C'est la dernière année qu'ils font à ce circuit-là parce que considéré par les amateurs de F1 comme un des pires circuits là, en termes de plaisir à regarder et d'entertainment en anglais. Bien, dans le fond, c'est ça. Avec la dernière course de la semaine passée, ou deux semaines, je ne m'en souviens plus exactement, il y avait eu un gros accrochage entre les deux
Hamilton et Verstappen. Je crois que c'est la semaine passée.
C'est ça, les deux qui se battent pour le titre. Là, ils se sont rentrés dedans, puis un par-dessus l'autre, là, littéralement. Fait que là, on va avoir de voir là, comment ils vont réagir là, cette semaine en cette fin de semaine avec leur performance.
Parce que là, c'est une grosse course pour le premier rang. Là, je vois que du côté de Verstappen, c'est 226,5 points. Du côté d'Hamilton, c'est 221,5 points. Donc, probablement le vainqueur de cette course pourrait prendre les devants au classement. C'est tellement serré, ouais. J'ai hâte de voir. Et là, toi, tu irais avec qui? Entre les deux, là, on va y aller entre les deux. Ça peut être tu peux me dire un autre pilote que tu crois qu'il pourrait remporter, mais quelqu'un qui t'as confiance en lui là, pour le Grand Prix de Russie.
Là, ça fait plusieurs années que Lewis Hamilton il est champion back-to-back. Puis cette année, les Red Bull sont très, très, très rapides, très performantes, très consistantes. Fait, je vais aller avec lui que j'y vais depuis le début, avec le Verstappen pour cette course, puis pour ce championnat-là aussi.
Tu y vas avec Big Max. Alors, ouais, OK. Super Max. Bonne prédiction. Toi, Guillaume, tu y vas avec le Lewis Hamilton qu'on connaît ou Max Verstappen?
Je vais y aller avec Verstappen. J'ai un bon feeling pour lui. Ça va bien cette année. On dirait qu'à chaque fois que je regarde, il y a tout le temps des bons résultats. Fait que moi, y aller avec lui.
Je vais vous suivre. Moi aussi, je vais y aller avec Max Verstappen. Je crois que c'est justement un nouveau pilote qui se met dans le classement des autres. Il est présentement premier. Je crois qu'il va rester premier. Je ne sais pas, il reste combien de courses d'ici la fin de saison? Est-ce que tu sais un peu le chiffre?
Je te dirais 8. Je pense qu'il en reste 8. Bien, il y a une course qui n'est pas confirmée, puis la Turquie encore qui ne sont pas sûrs. Mais c'est ça achève, ça, on approche la fin, on est sur les deux tiers là, du championnat. Là. Cette année, c'est vraiment une bonne année, puis c'est la dernière année des règles depuis 2014 qui sont similaires. L'année prochaine, une toute nouvelle voiture pour tous les constructeurs avec des nouvelles règles. Ça va être vraiment excitant à voir. Ça reste à suivre.
J'ai bien hâte de voir ça. La course, c'est dimanche, je crois, les qualifications.
Les qualifications, le samedi à 9h, la course... c'est en Russie, fait que c'est peut-être plus tard, mais c'est ça. Le dimanche, la course, c'est ça. On a bien hâte de voir. Moi, je vais la suivre de A à Z, là, du début jusqu'à la fin. Ça paraît peut-être plate pour certains, mais moi, je suis ça...
Je vais regarder ça moi aussi. Mon père, c'est un fan de F1. C'est peut-être pas mon sport préféré. Je vais me réveiller le lendemain parce que le samedi, c'est ma fête. Donc, peut-être je vais me réveiller. On va voir si je vais être en état de regarder la course. Mais je vais essayer de la suivre et voir Max Verstappen gagner. Et là, merci les gars. C'est déjà la fin de l'émission, de cette première de la conduite antisportive. Guillaume Séguin, Raphaël Ouellette, merci. Les deux, on se voit la semaine prochaine. Toi, pour une chronique NBA. Guillaume, pour tes talents de statistiques en hockey. Et là, on va avoir le retour de notre fameux Édouard Dubois, qui, lui, est notre analyste baseball. J'aime bien ça, faire ça avec vous, les gars. J'espère que vous avez eu du fun. C'était la première. Il en reste plusieurs. Alors, merci. Merci à vous. Et pour les autres à la maison, on se voit mercredi prochain à 15h pour une autre émission de la conduite antisportive et pour voir si mes prédictions étaient les meilleures face à ceux de Guillaume et de Raph. À la prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec. Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
T'es aux études, à la recherche d'un emploi stimulant et diversifié? Tu veux fusionner études, travail et passion avec une équipe dynamique et sympathique? ADM Sport a besoin de ton talent, ton enthousiasme et ton ambition. Nos passionnés de véhicules récréatifs recherchent des conseillers aux ventes, département des vêtements. On t'offre un salaire compétitif, une prime annuelle, des rabais employés fort intéressants et même une formation à ton arrivée. Joins-toi à la grande famille ADM Sport. Envoie ton CV à ressources.humaines@admsport.com.
Bord de la rive à Yards and Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bon mercredi tout le monde, on est le 22 septembre, vous écoutez Chérie J'arrive, mon nom est Félix Duchesne et je suis votre animateur pour la prochaine heure et demie. Aujourd'hui je vous parle du Pantoum qui annonce son horaire de spectacle pour octobre. Je vais parler aussi avec Philomène Lompré de sa pièce Envolée lyrique. En fait c'est une projection, elle va tout nous raconter ça, c'est au Grand Théâtre de Québec. C'est une installation qui est là jusqu'à fin novembre. Je vais parler aussi avec Nathan Murray pour sa chronique Cinémania qui va me parler du film best-seller. Il va me faire un retour encore sur le Festival de films de Toronto et il va me parler des